Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mise en place hier à Bounia d'une commission d'enquête pour identifier les militaires des FARDC qui sont dans des carrés miniers à Mongualou dans l'Ituri, ensuite les arrêter et les déférer devant la justice. C'est le gouverneur de province qui a mis en place cette commission, action saluée par la société civile locale. Et puis ce plaidoyer de l'Observatoire africain pour les ressources naturelles en faveur des habitants des villages Yenge et Kapanga dans le Lualaba. Ces populations subissent les conséquences des déchets toxiques de l'entreprise Sicomine. Cette structure interpelle les autorités du pays. Et puis, 445 millions de dollars américains, c'est la somme allouée par la Banque mondiale pour financer la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC. Après l'étape de l'Ituri, le fonds social qui l'exécute a lancé ce programme hier au Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons Rufin Boilongo, coordonnateur national du Fonds social de la République. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Le gouverneur Johnny Luboyankachama a mis en place hier à Bounia une commission d'enquête pour identifier tous les militaires FARDC cités dans l'exploitation des minerais dans la région de Mongualou, dans le territoire de Djougou. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, cette structure a pour mission d'identifier les hommes en uniforme incontrôlés qui sont dans des carrés miniers, de les arrêter et de les déférer devant la justice. La société civile locale et les organisations de défense des droits de l'homme qui salue cette mesure, souhaite que ce travail s'efface sans complaisance. Des détails avec Martial Kiza.
Cette commission est composée de membres de la justice militaire, des FARDC, de la police militaire et de la direction provinciale de mines. Le gouverneur de province, le général Johnny Luboyankachama, justifie sa mesure par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles par les militaires. Ce phénomène est surtout observé dans la région minière de Mongualou, où des hommes en uniforme sont actifs dans des puits d'or malgré leur statut. Et c'est là au détriment des orpailleurs artisanaux. Sur place à Mongualou, la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme encouragent les membres de cette commission à aller jusqu'au bout de leur mission afin d'assainir ce secteur. Cher Ibn Koukou Dilawa.
S'ils viennent pour le travail, que ce soit un travail qui sera appréciable afin que la population comprenne et que tout le monde comprenne que nul n'est au-dessus de la loi. C'est là qu'ils seront trouvés à complicité l'entrée des incités de militaires qu'on les arrête. Ou ces militaires qui seront trouvés, qu'on les arrête aussi effectivement, que ce ne soit pas un théâtre où on va assister. On interpelle les gens aujourd'hui, demain ou après, demain on les voit encore retourner dans le milieu, on ne sait pas sur base de quoi.
Cette structure souhaite cependant que cette enquête s'étende dans d'autres territoires, dont Mambasa et Irumu, où la présence de militaires dans des mines est signalée. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, les miliciens Mai Mai continuent d'accentuer leurs exactions contre les populations civiles dans plusieurs entités du sud du territoire de Lubero, ce malgré les multiples sensibilisations par les autorités à déposer les armes. C'est le cas des éléments du groupe FPP-APEC de Kabido, dont le leader avait pourtant déjà exprimé la volonté de s'y rendre. Les acteurs de la société civile dans la région, préoccupés, réitèrent leur appel au gouvernement d'accélérer le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation en vue de restaurer la paix durable dans la région. Plus de détails avec Grâce Amzati.
Selon des sources de la société civile, ces exactions des miliciens Mai Mai du groupe FPP-AP de Kabido sont commises dans plusieurs villages qu'ils occupent. C'est notamment Kanyatitama, Pitakongo, Mbwavinywa, Kanune Kasinga et Bwambali, à cheval entre les chefferies de Bamate et Batangi. Ces miliciens soumettent les habitants à des travaux forcés et ceux qui n'exécutent pas sont fouettés et sommés de payer des amendes exorbitantes. La taxe mensuelle des 1000 francs congolais qu'ils exigent à chaque habitant majeur reste de rigueur. Dans la même partie sud du territoire, d'autres milices non identifiées voient les jours et se livrent à des extorsions des biens des populations, ajoutent nos sources. Face à cette situation, les acteurs de la société civile ainsi que des activistes des droits de l'homme plaident pour l'accélération du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation pour mettre fin à cet activisme accru des groupes armés. Contacté, le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS indique que le programme n'attend que les moyens nécessaires pour être lancé effectivement. Toutefois, Luko Jacques appelle les groupes armés à cesser les hostilités en attendant les débuts du processus. Butembo, Grâce, Amzati, Radio Kapi.
Justice au Sud Kivu, un officier des FARDC condamné à la peine capitale. Verdict rendu hier à Minova par le tribunal militaire d'Ouvira siégeant en audience foraine à Calais. L'incriminé était poursuivi pour meurtre de sa femme à la fin du mois de janvier dernier. Le compte rendu de Emmanuel Elamegi.
Le procès de Minova, territoire de Calais, aura duré 3 jours. L'affaire opposait le ministère public à un capitaine de FARDC, un officier poursuivi pour meurtre, violation des consignes et dissipation des armes de guerre. Il est reconnu auteur de la mort de son épouse par balle dans sa maison le 28 janvier dernier. Ainsi, le tribunal militaire de garnison d'Ouvira, siégeant en chambre foraine à Minova, les condamne à la peine capitale. Il est également condamné solidairement avec l'État congolais au paiement des dommages et intérêts de 25 000 $ américains en faveur de la famille de la défunte. Signalons que ce verdict était très attendu par les organisations de défense des droits de l'homme du Sud Kivu. La défunte, de son vivant, était actrice des droits humains, basée à Minova et collaborateur de la Fondation Panzi dans la lutte contre les violences sexuelles. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Aujourd'hui 12 février, c'est la journée des enfants soldats. À cette occasion, au Sud Kivu, les principaux acteurs engagés dans la prévention et la démobilisation des enfants soldats réfléchissent sur le contexte général en rapport avec le recrutement et l'utilisation des enfants soldats par les forces et groupes armés. Ce même jour, dans la soirée, il est prévu la projection d'un film sur la problématique des enfants soldats au Sud Kivu. Ça sera à l'Institut français de Bukavu. Les principaux acteurs engagés dans ce secteur sont l'UNICEF, la MONUSCO, les FARDC, le programme DDRCS et bien d'autres. Le thème retenu cette année, le recrutement d'enfants est un crime de guerre. Ici à Kinshasa, c'est sous une pluie ce matin que les colonnes des éléments de la garde républicaine ont arpenté les grandes artères de la capitale pour leur marche dite d'endurance. Selon le communiqué rendu public hier soir, des troupes combattantes en file indienne sont parties de l'échangeur de Limété vers le camp Seta à l'est de la capitale pour les uns, en suivant le boulevard Lumumba, et les autres ont longé le boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin en passant par l'ex-avenue 24 novembre, en traversant les communes de Kintambo et Bandalungwa en direction du camp colonel Tchachi dans la commune de Ngaliema. Notons que la plupart des Kinois observaient en silence le passage de ces unités spéciales de la sécurité présidentielle, tandis que les autres les encourageaient par des acclamations, une situation qui a entraîné des embouteillages sur certains tronçons routiers. Parlons à présent de ce plaidoyer de l'Observatoire africain pour les ressources naturelles en faveur des habitants des villages Yenge et Kapanga dans la province de Lualaba. Selon une enquête publiée hier à Kinshasa lors d'une conférence de presse, la population de ces villages subissent les conséquences des déchets toxiques de l'entreprise Sicomine. Richard Mukenga, chargé des programmes de cette structure, appelle les autorités du pays et tous les autres acteurs de la société civile à rétablir ces villageois dans leurs droits. Richard Mukenga explique au micro de Paul Matendo.
Nous avons mené cette enquête parce que nous avons été informés par les communautés qui sont victimes des impacts négatifs, des déversements, des rejets toxiques par l'entreprise Sicomine. C'est dans la province du Lualaba. Et c'est depuis 2015 que l'entreprise est en train de jeter les déchets toxiques dans un cours d'eau, lequel cours d'eau alimente les plusieurs villages, dont les deux sur lesquels l'étude a porté, les villages Yenge et Kapanga. Voilà pourquoi nous organisons aujourd'hui cette conférence de presse, pour pratiquement inviter toute l'opinion, donc inviter tous les acteurs, publics et privés, et aussi d'associés civils, de mener un plaidoyer fort pour que toutes les communautés victimes des villages Yenge et Kapanga soient prises en charge et soient réhabilitées dans leurs droits. Et à partir de Kinshasa, qui est le siège des institutions ou le siège des décisions, afin que ces victimes soient rétablies dans leurs droits.
Province du Maniema, l'impôt foncier a été au centre d'une matinée fiscale organisée hier à Kindu par la Direction générale des recettes du Maniema, Degerma. Cette rencontre en faveur des forces sociales et politiques avait pour but d'amener la population au paiement des impôts et taxes. Florence Kizalunga a pris part à cette matinée fiscale. Voici son reportage.
Dans son speech, le directeur général de la DGRMA a sollicité l'accompagnement des participants dans la maximisation des recettes provinciales pour permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens afin d'assurer sa politique du développement. Sadiki Yuma.
Ce que nous visons dans la sensibilisation, c'est surtout la culture fiscale qui fait défaut dans notre province, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo. Donc, au niveau de la province, nous avons constaté que, avec l'expérience des années passées, l'impôt foncier, par exemple, se paye difficilement et par une catégorie, au lieu que ça soit payé par toutes les catégories qui sont appelées à le faire.
De son côté, le gouverneur intérimaire appelle ses acteurs à faire une large diffusion de ses messages.
Les peuples, au moyen des impôts et taxes, donnent au gouvernement la possibilité pour répondre à ses attentes. Tel est le message qu'il convient de transmettre à l'opinion provinciale par vos canaux habituels pour vulgariser l'impôt foncier et sensibiliser nos concitoyens à s'acquitter promptement de leurs devoirs.
Un appel a été lancé à la population de cultiver la culture fiscale pour le développement de la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, un consortium de 7 organisations de la société civile du secteur de la santé appelle le gouvernement congolais à investir plus de ressources pour la couverture sanitaire universelle. Elles l'ont dit lors d'une table ronde organisée hier à Goma en marge de la journée mondiale de la couverture de la santé universelle, journée célébrée le 12 décembre de chaque année. Selon ces organisations, la province continue d'enregistrer des décès maternels et des morts liées à des maladies pourtant évitables. Le coordonnateur exécutif du Conseil sur la santé et l'Académie médicale, COSAMED, une de ces organisations, recommande aux décideurs congolais de revoir à la hausse le budget alloué à la santé. Docteur Elia Mouindo est au micro de Denise Lukeso.
Pour l'année 2021, pour les décès maternels, les Nord Kivu étaient en première position, suivi des Ituri et à d'autres Kumer, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins de santé. Ils n'ont pas l'argent pour se payer les soins. Moi, je suis médecin du milieu rural. Il y a là où on manque même des kits d'accouchement. Il y a des structures qui ne sont pas équipées. Et nous, les acteurs de la société civile, on s'est dit aujourd'hui, on profite de cette journée pour, une fois encore, hausser la voix, renforcer la demande auprès des autorités, même ceux qui font le loi pour qu'on puisse y arriver à cette couverture sanitaire universelle. La recommandation, c'est d'investir dans le système de santé. L'OMS recommande 15% du budget qui doit être alloué à la santé. Mais chez nous, on est à moins de 9%. Dans les 9% réservés à la santé, le grand pourcentage, c'est dans l'administration, la gestion fiable des ressources disponibles et mettre encore beaucoup plus de ressources davantage.
Notez que la table ronde d'hier avait pour thème « Ne laisser la santé de personne de côté, investir dans des systèmes de santé pour tous ». Le laboratoire pharmaceutique Biogaran a lancé ses activités hier à Kinshasa. D'après le laboratoire, c'est pour permettre à la population congolaise d'accéder aux médicaments génériques et à moindre coût. La République démocratique du Congo est le 10e pays d'Afrique dans lequel Biogaran s'installe. Des détails dans ce reportage de Fulbert Balolagué.
Pour le docteur Nicolas Folio, directeur export Biogaran, il n'est pas facile d'œuvrer dans un pays où il n'y a pas une couverture santé universelle. Mais le but est de proposer aux patients des médicaments génériques à un prix abordable. C'est quoi alors un médicament générique? Docteur Laurent Sellet, superviseur des ventes en RDC.
Ce sont les médicaments qui sont comparables sur le plan qualité, efficacité, indication, au principe ce que nous appelons les médicaments spécialité. Les autres peuvent produire facilement ces médicaments, mais en respectant les normes de fabrication édictées par le promoteur de médicaments.
Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise pense que la présence de cette entreprise va contribuer au social des Congolais.
Je pense que cela aura un impact au niveau du social des populations. Et c'est comme ça que nous sommes réjouis de leur visite et de leur implantation à Kinshasa et nous espérons dans toute la République démocratique du Congo.
Des médecins de différents domaines et des pharmaciens présents au lancement ont recommandé à Biogaran de veiller au respect des normes de fabrication, de transport et de conservation pour le bien-être de la population congolaise.
Actualité internationale.
Covid-19 en France. Le pic des infections semble bel et bien passé, même si la pression reste forte à l'hôpital. Le nombre d'admissions est en baisse. Les autorités ont donc annoncé hier des nombreux allègements des contraintes sanitaires. À partir du 28 février, les Français pourront tomber le masque dans les lieux clos où le pass vaccinal est exigé, tels que les cinémas, théâtres, musées, restaurants ou bars, sauf dans les transports. S'ils sont cas contact, ils ne devront plus faire qu'un seul test au bout des 2 jours. On y croit y entendre Alassane Ouattara et Boubou Cissé tenir des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L'enregistrement d'une discussion téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien premier ministre malien circule sur les réseaux sociaux. Elle fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire de la justice malienne pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali.
L'invité.
445 millions de dollars américains, c'est la somme allouée par la Banque mondiale pour financer la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, Step 2. Ce projet de 4 ans visant à améliorer l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques des communautés vulnérables a été lancé en 2020 dans les provinces du Kasaï central et du Nord Ubangi. Après l'étape de l'Ituri il y a quelques jours, le Fonds social qui l'exécute a lancé ce programme hier au Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur national du Fonds social de la République, Ruffin Boilongo, s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Monsieur Ruffin Boilongo, bonjour.
Bonjour.
Nous pouvons avoir un peu une idée sur ce que vous avez présenté comme manifestation d'aujourd'hui.
Je me trouve au Nord Kivu aujourd'hui. C'est pour lancer le briefing de membres du CCP dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet pour la stabilisation de l'Est. Et comme l'autorité de la province a signé l'arrêté portant mise en place du Conseil consultatif provincial, il était important que nous puissions animer cet atelier pour vulgariser davantage les projets et surtout insister sur le rôle des uns et des autres, surtout des membres du comité consultatif provincial, parce que c'est un espace de dialogue, un espace de concertation, un espace d'approbation, un espace de coordination, et donc il est important que chacun comprenne son rôle pour pouvoir accompagner les fonds sociaux dans la mise en œuvre de cette phase du projet pour la stabilisation.
Alors, pour voir le coût de ces projets, et quels sont les programmes prioritaires?
Les projets ont un coût de financement total de 445 millions de dollars. Et dans le cas de ce projet, nous avons 2 composantes essentielles d'activité et une composante d'appui au gouvernement pour le renforcement des capacités institutionnelles. Les programmes composantes d'activité portent sur les infrastructures communautaires au niveau de la base, les travaux à haute intensité en main d'œuvre et les transferts monétaires inconditionnels comme filets sociaux pour appuyer les populations vulnérables.
Alors nous avons vu le Fonds social de la République démocratique du Congo commencer certaines activités dans Step 1, notamment la construction de routes, mais ces projets ne sont pas arrivés à terme. Est-ce qu'il y a encore de chances que cette activité continue pour ces Step 2?
Non, je dois rectifier. Il ne faut pas dire que ces projets ne sont pas arrivés à terme, non. Bon, le Fonds social de la République, c'est un établissement public créé à l'initiative des autorités du pays, du gouvernement, et avec pour mission de participer à l'effort de la reconstruction de notre pays. Ceci par la construction, la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques de base et la promotion de création des emplois. Tous les projets entamés dans le cadre de la phase 1 ont été complètement achevés. Il n'y a aucun projet, alors à ma connaissance, qui serait resté inachevé. Et donc, d'un projet à un autre, c'est des contextes parfois différents. Nous avons clôturé en bonté la phase 1. D'ailleurs, je suis passé dans chaque province, y compris le Nord Kivu, pour partager avec les partenaires les réalisations dans le cadre de la phase 1 et annoncer justement la phase 2 qui est en train de commencer. Conçue pour être clôturée le 26 février 2024. Donc, nous avons encore à peu près 2 ans de mise en œuvre. Les projets, il faut le dire, a déjà commencé en 2020 au niveau du Kasaï central et du Nord Ubangi. Il faut dire aussi que le Nord Kivu, c'est la dernière antenne où nous sommes en train de démarrer les activités. Il y a quelques jours, 2-3 jours, j'étais à Ituri pour lancer effectivement les activités du projet. Et aujourd'hui, nous sommes au Nord Kivu.
Vous pouvez être spécifique pour nous dire que dans le Nord Kivu, niveau, ce projet concerne quoi normalement?
Donc le projet a deux activités retenues à travers deux composantes essentielles. La composante une, c'est pour construire les infrastructures socio-économiques de base dans trois secteurs, éducation, santé et adduction d'eau. Tant, bien sûr, les groupements ou les communautés qui seront identifiées. La deuxième composante porte sur les défilés sociaux, notamment les travaux à haute intensité en main d'œuvre en milieu urbain, comme Goma, Beni et Butembo, plus ou moins aussi cité Lubero, et le transfert monétaire inconditionnel en milieu rural, c'est-à-dire au niveau des groupements qui seront ciblés. C'est cela les activités du projet. Au-delà de renforcement des capacités institutionnelles qui concernent certains services spécialisés, notamment le ministère des Affaires sociales, la CNR et le Fonds social, bien sûr.
Nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Notre invité, le coordonnateur national du Fonds social de la République, Ruffin Boelongo, s'entretenait avec Mathieu Ilunga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Noëlla Luzi Tukabambi et Pierrot Elameji. À la mise en onde, Jean-Claude Nsiala et Belinda Bosuma vous la présentent. Merci de rester branchés sur la fréquence de la paix.